Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovic Obraniak et de Jonathan McCarthy. Troisième journée de Ligue 1. Elle a débuté ce soir. Victoire de l'OL 2-0 face à Strasbourg. On est en train d'analyser cette victoire de l'OL qui se relance après sa défaite face à Reims la semaine dernière. On vous rappelle les buteurs: Martin Terrier à la 42e, Traoré à la 64e minute de jeu. Supporter de l'OL, supporter de Strasbourg, on vous attend au 32-16. J'étais un peu coupé la chic parce qu'on devait y aller, Ludo, mais tu disais...
Non, je disais que le pouvoir d'attractivité de l'entraîneur pouvait être important aussi. Après, Lyon essaye de faire des coups depuis quelques temps sur des jeunes joueurs. Ndombele, ils ont tenté Ruben Diaz, donc on était en train de parler. Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui peut-être de s'orienter sur des gens un peu plus expérimentés, notamment dans l'optique de... Il y a une Ligue des Champions qui arrive, des poules, je pense que...
Non, mais là, t'as, en défense, t'as quand même Marcelo, t'as Raphaël, t'as même Morel, c'est des joueurs d'expérience quand même, ça. T'as aussi besoin de joueurs avec une valeur marchande quand t'es un club comme Lyon.
Ouais. Non, mais surtout, je pense que Lyon, ils sont dans une construction qui, on va dire, qui est sur le moyen terme. On sait qu'ils ont été longtemps bloqués par le fait de construire le stade. Il y a un nouveau cap qui a été franchi une fois que le stade a été livré. On a vu qu'ils ont changé de paradigme en vendant les jeunes joueurs qu'ils avaient formés. L'année dernière, t'as quand même Lacazette, Tolisso, Gonalons qui partent. Umtiti aussi qui part au Barça. Ils ont rentré beaucoup d'argent. Ils ont recruté beaucoup de jeunes prometteurs. Depay, Traoré, Tété, enfin ils ont vraiment essayé d'investir sur des jeunes prometteurs, et je pense que ça, on est dans un deuxième temps du projet lyonnais qui va essayer justement de valoriser ces jeunes joueurs-là avant justement d'essayer de redevenir un grand club et de regagner de l'attractivité pour prendre des joueurs, on va dire, d'un panier au-dessus. Après, là où je te rejoins totalement, c'est vrai que en termes d'attractivité, le nom du coach, je pense que ça les pénalise un petit peu. Alors moi, j'ai pas envie de tomber de crier avec les loups et de
taper sur Ruben Diaz, par exemple, c'est pas à cause de ça qu'il vient pas.
C'est une histoire de... D'accord. Alors, explique à nos auditeurs parce que tu le sais.
Bah, c'est pas compliqué, mais c'est pas moi qui le sais. C'est le club l'a expliqué. Le Benfica a la clause à la 45 millions d'euros. Il proposait 30. Eux, ils voulaient 45 millions d'euros. Voilà, c'est juste ça. C'est une question d'oseille, hein. C'est rien d'autre, hein. Ruben Diaz, il prenait 90 000 euros par an, avant de prolonger, là, cette semaine. Et là où il prend maintenant, ça par mois, tu vois.
Après, Ruben Diaz, ça reste quand même un joueur, on va dire, pour l'instant, hein. Je te parle pas en termes de potentiel, mais ça reste un joueur de seconde zone.
C'est pas un joueur confirmé.
C'est pas un joueur confirmé. Et je pense que pour l'instant, c'est le genre de joueur que Lyon veut cibler. Donc ça peut peut-être être frustrant pour les supporters lyonnais, mais je comprends la logique, tu vois, sur de construction du club, sur les 4-5 ans à venir.
Mais loin de moi aussi l'idée de décrier Bruno Genesio, ce qu'il fait depuis 3 ans, venant de là où il vient. Mais après, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont eu avant. Est-ce que tous ces jeunes-là, ils sont pas aussi dans un confort et dans une sécurité, le fait de l'avoir comme entraîneur? Ils auraient besoin d'avoir aussi peut-être quelqu'un qui les remet en question, avec des gens qui arrivent et qui puissent aussi...
On est quand même
s'installer une concurrence.
On est quand même à la troisième journée. Donc c'est vrai que le match était quand même un peu décevant ce soir. On sait que l'année dernière ils ont bien marché quand ils sont passés en losange avec Fekir derrière deux attaquants.
Ouais, il leur manque quand même des joueurs importants. Ouais.
Fekir est pas là.
Lopez est revenu aujourd'hui aussi, voilà. Ça aide.
Aouar est pas encore retrouvé son bon niveau de forme. C'est une équipe qui, à mon avis, est préparée pour être performée un peu plus tard dans l'année. Donc je commencerai pas dès maintenant à tirer des conclusions définitives sur Lyon, de même que sur l'OM la semaine dernière. Quoi.
Alors focus sur un joueur, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur le hashtag RMC Live ce soir. Les absents ont toujours tort. Il y en a un qui a pas été aligné titulaire du côté de l'OL ce soir.
Mariano.
Non, c'est Dubois, notamment, dont je voulais vous parler. Il y a Nicolas qui nous dit, Raphaël a montré que pour le moment, le titulaire sur le côté droit de la défense, c'était lui, et non Léo Dubois. On rappelle que Dubois vient d'arriver du côté du FC Nantes. Il a pas forcément été très convaincant d'ailleurs sur les deux prochaines journées, mais bon, il vient d'arriver. Il y a beaucoup de supporters de l'OL qui sont très durs avec lui, très exigeants avec Dubois.
Bah, il a pas été bon, sur les deux, quand il a joué. Faut dire la vérité, il a pas été bon et Raphaël fait quand même un match correct ce soir. Après, le problème c'est que il va falloir lui laisser un petit peu de temps. C'est quand même une étape de passer de Nantes à Lyon. On sait que c'est un joueur qui est prometteur. Après, est-ce que pour lui c'était le meilleur choix d'aller à Lyon maintenant, sachant qu'ils ont quand même trois défenseurs. Ils sont trois pour son poste. Ça fait quand même beaucoup de concurrence. Donc, on va voir. De cette manière, on sait très bien qu'au moment où ça sera l'hiver, avec la Coupe d'Europe, les coupures, il y aura du temps de jeu et il pourra peut-être montrer ce qu'il...
Moi, j'ai noté entre le match de ce soir et le match de Reims, quand même, une incohérence entre le relationnel entre le milieu excentré et l'arrière latéral. J'ai pas senti une grande complicité, notamment sur les déplacements. Le latéral qui monte toujours à contre-temps. Donc, Léo Dubois, c'est quelqu'un qui, au FC Nantes, jouait très très haut.
Il jouait milieu même certains matchs avec
quasiment. Donc il lui faut du temps aussi à s'adapter au système lyonnais. Je pense qu'il y a aussi des choses à faire sur la complicité excentrée latérale. Ouais. Parce que là ce soir ils rentrent souvent dans l'axe et ils butent souvent dans l'axe.
Mais...
quand t'as Mitrovic et Koné, ils sont un peu plus passés sur les côtés en deuxième mi-temps et ça a été beaucoup
mieux. Mais ça ira mieux, je pense, quand ils reviendront en 4-4 de losange avec Fekir en 10, soit il aura quand même beaucoup plus d'espace pour prendre son couloir.
Et puis notamment avec Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui, lui, avec sa patte gauche, a l'opportunité soit de rentrer, soit de le décaler. Exactement. On voit que Bertrand Traoré, ce soir, dès qu'il prend le ballon, c'est quelqu'un qui provoque, qui aime le 1 contre 1 et qui va créer des brèches. Donc je suis pas inquiet ni pour Raphaël ni pour Dubois, ça va s'installer.
C'est juste que le schéma là, il est un peu, il bricole un petit peu quoi. Enfin, et par contre, c'est ça qu'on pourrait relever si on veut être vraiment inquiet pour Lyon, c'est que l'équipe, j'ai l'impression qu'elle est quand même. Alors, c'est un joueur de classe, y a pas de souci, mais l'équipe est quand même très dépendante de Nabil Fekir quoi. On le voit, on le savait l'année dernière. Ouais,
mais c'est un peu c'est le taulier de cette équipe aussi. Mais c'est certaine logique, c'est le maître à jouer,
Ouais, mais c'est quand même très criant dans les autres équipes quand le joueur clé n'est pas là. Je pense par exemple à l'OM quand Payet n'est pas là. T'as quand même un Thauvin ou un Morgan Sanson qui arrive à se mettre au niveau et qui fait que tu vois que l'attaquant n'est pas là. Mais il y a quand même, voilà. Par contre, quand Nabil Fekir n'est pas là, t'as l'impression que c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde en termes de contenu.
Surpris de pas le voir débuter d'ailleurs parce que ça fait quand même un moment qu'il a repris. 40
jours.
Au moins une heure. Quoi. Il a joué un quart d'heure.
Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, après j'entendais Edouard G à la mi-temps qui disait que qui comparait avec les Lyonnais de 2006 qui avaient été en finale de Coupe du Monde. Il disait les joueurs hormis Grégory Coupet avaient mis 40 jours avant de revenir. Et là c'était le 40e jour après la Coupe du Monde.
Oui, mais là fatalement on va comparer par rapport aux autres mondialistes, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont déjà repris la compétition, qui ont fait des matchs pleins, qui en plus étaient titulaires en mondial, ce qui est pas forcément le cas de Nabil Fekir. Alors, il avait peut-être aussi une certaine fragilité, il a eu beaucoup de pépins aussi, Fekir.
Il a eu ça, il a eu son été qui a été compliqué, avec le transfert avorté. On sait pas trop comment ça s'est passé, on sait que c'est un joueur qui a besoin d'être quand même au top physiquement, d'être très affûté pour être performant. Là, sur les images, je veux pas faire de procès d'intention, mais t'as l'impression qu'il a quand même un ou deux petits kilos de trop. Donc, moi, je serais patient avec lui parce que faut éviter qu'il se blesse. Je pense qu'il faut le faire reprendre doucement parce que je vois vraiment en avoir besoin plutôt à l'automne.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'il soit resté à côté Lyon. C'est une vraie bonne nouvelle.
Pas pour Lyon, hein, pour nous. Hein. Ouais. Quand on va voir les matchs le week-end, ça fait plaisir.
On accueille Alexandre qui est supporter de l'OL et qui était ce soir au stade justement pour assister à la victoire de Lyon 2-0 face à Strasbourg. Salut Alexandre.
Salut à tous.
Salut Alexandre.
Bon Alexandre, est-ce que tu t'es régalé?
C'est poussif. Hein. C'est mieux que la semaine dernière et qu'il y a deux semaines, ça c'est une certitude. Mais ça me fait peur pour la suite quand même.
Bah pourquoi peur? Il y a beaucoup de tes cadres qui n'étaient pas là justement sur ces matchs-là.
Il y a beaucoup de cadres qui ne sont pas là, mais là ce soir on a quand même une équipe qui est censée être à peu près type, hormis Fekir et Aouar qui est sur le banc. Mais même si Fekir n'est pas là, en fait, j'ai l'impression que le plan de jeu c'est on donne le ballon à Fekir. Et en priant, on verra ce qui se passe.
Aouar est quand même très important dans la fin de saison de l'année dernière aussi. Et là, il est pas encore là.
Ça c'est une certitude. Mais moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'on est dépendant de deux joueurs. Et au-delà de ça, on n'arrive pas à élever le niveau de jeu quand ces deux joueurs ne sont pas là.
C'est par à coup quand ils sont pas là.
C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un peu au coup par coup. Et là, ce soir, on peut, si on n'a pas un grand Lopez. On peut prendre bien deux buts facilement quoi. Et ça me fait peur. Ça me fait peur pour des matchs de Ligue des Champions où on est censé, selon notre président que j'adore, hein, mais on est censé très bien figurer en Champions League. Je pense qu'il faut même aligner des sous parce qu'on les a. On les a et ce serait bête de s'en priver et de faire les pinces. Quand je vois qu'on est capable de mettre 45 millions pour le gaz, qu'on attend que.
Allô.
On va payer plus cher.
Ouais. Allô.
Ouais. Ça a coupé. Oui, tu disais mais... Alexandre, ouais. Ça a coupé. Bon, ouais.
Je suis là. Donc du coup non, je disais que c'était bête d'attendre que Diaz par exemple prolonge à Benfica parce qu'on va le payer plus cher, alors que c'est un transfert qu'on aurait dû boucler depuis un moment déjà.
Ouais, surtout que sa clause a augmenté hein, puisqu'il vient de prolonger.
Bien sûr. Donc c'est dommage au final de vouloir économiser 5 millions parce que là on va en perdre 20.
Bah, là c'était 15 hein, quand même hein, la différence. Hein, c'est pas rien. Hein.
C'est ça, on voulait faire une offre à 40 millions, de ce que j'ai entendu.
Bah moi j'ai mis 30, final, mais bon. Et après ça a peut-être augmenté, mais.
Voilà. Mais final,
dis-moi Alexandre, il y en a un qu'on n'a pas encore cité qui a pas été titulaire aujourd'hui, mais c'est Mariano aussi. Alors c'est vrai que ce qui est quand même curieux, c'est que Fekir est pas là et il met quand même pas Mariano Diaz titulaire pour un match comme celui-ci.
Bah c'est ce que je comprends pas, oui.
Honnêtement, j'ai préféré Tarrier.
On a Martin Terrier qui est quand même à l'aise techniquement.
Au début, honnêtement, moi j'ai préféré Tarrier. En tout cas, sur la fin de saison dernière.
Même les matchs de prépa, tu disais pendant le match.
Le bon passage de Lyon l'année dernière, quand ils enchaînent les 10 derniers matchs, ils enchaînent 8 victoires, il me semble, l'année dernière, pour finir sur le podium. Ils les font sans Mariano. Hein. Ils jouent avec Memphis et Bertrand Traoré devant.
C'est plutôt Traoré qui est pas dans le 11.
Ouais. Non, ils l'ont fait une paire de fois sans Mariano qui est resté.
C'est plutôt Mariano avec Memphis et Traoré qui est un peu mis à l'écart.
J'ai revu pas mal des derniers matchs de Lyon. Mariano, il a été absent une paire de fois, notamment en fin
sans
de saison dernière.
Il se blesse.
Et moi, je trouve, en tout cas sur ce début de saison, qu'avec Terrier, ce qu'il monte ce soir, c'est plus cohérent.
Après, on attend qu'il soit régulier, Terrier. C'est vrai que, alors la saison dernière, il y avait eu justement après le fait qu'il soit engagé avec l'OL, il avait un peu, voire complètement disparu au niveau offensif.
Ça peut se comprendre.
Oui, ça peut se comprendre.
Et surtout, ce qu'il peut apporter, c'est que s'il repasse à deux attaquants, ce qu'on a vu justement en fin de saison dernière, c'est que parfois Mariano et Memphis se marchent un petit peu sur les pieds. On a en tête toutes ces scènes d'énervement entre les deux. Fais-moi la passe, fais-moi pas la passe, machin. Le Terrier est quand même beaucoup plus intelligent, beaucoup plus collectif.
C'est un garçon qui a une vision du jeu, qui fluidifie le jeu.
Exactement.
C'est quelqu'un qui,
je pense qu'il pourrait être plus complémentaire à la fois de Memphis ou de Mariano. Tu vois, faire la paire. Et ce serait une paire beaucoup plus complémentaire.
Alexandre.
Messieurs, dans ces cas-là, pourquoi mettre Cheick Diop ce soir et ne pas jouer avec tout simplement Touzard et Ndombele en 6-8, mettre Terrier en 10 et laisser Mariano devant? Ça, c'était tout à fait possible aussi.
Oui, c'était une possibilité aussi. Ouais.
Surtout que Diop, le mettre dans un milieu à 3, ça me semble être un peu dur pour lui, quoi, parce que il a pas forcément le profil Tu t'attends à quoi de Diop? C'est un joueur qui a un profil qui est intéressant, qui est assez bon techniquement, mais dans ce profil-là où il faut être un peu plus dense physiquement, être capable de casser des lignes.
C'est pas trop mal débrouillé pour une première. On l'a trouvé un peu timide, mais
timide.
Il s'est retrouvé en deuxième mi-temps 2-3 fois en bonne position où il a voulu passer plutôt que tirer. J'ai trouvé que pour une première, c'était pas si mal.
C'est un bon joueur en tout cas, parce que là où ils ont été intelligents avec lui, parce qu'il faut dire quand ils font les choses sont bien, c'est qu'ils ont pas fait par exemple la même erreur qu'avec Mamana, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas lancé tout de suite. Il est là quand même depuis le mercato de l'année dernière. Ils ont pris le temps de le couver un petit peu. Genesio en parlait en conférence de presse, de le couver, de laisser s'adapter au nouveau championnat. Et je pense qu'on va le voir dans la rotation lyonnaise cette année. C'est un joueur qui est intéressant. Après, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, outre le défenseur central, il faut impérativement qu'il recrute un vrai numéro 6. Parce que, en fait, tous les problèmes dont on parle, sur les problèmes d'équilibre, le bloc qui parfois, les lignes sont distendues, que la défense remonte pas, je pense que Touzard, il fait pas assez son travail devant la défense. C'est un poste qui est clé, il est au carrefour de tout, il doit être capable justement de rameuter ses coéquipiers, d'apporter un peu de cohérence dans le jeu, et pense pas qu'il a pour l'instant la carrière pour faire ça. Et quand tu regardes la composition, la structure de l'effectif lyonnais, il y a aucun joueur qui a ce profil-là en fait.
C'est vrai que c'est un problème.
Juste pour revenir sur le cas Mariano quand même, parce que c'est vrai qu'il n'est pas titulaire. Ce soir, tu parlais de la fin de la saison dernière, et c'est vrai que Jérôme Thomas était en train de me le souffler. Sur les 5 derniers matchs de la saison dernière, il est titulaire une seule fois. Est-ce que ça pue pas la sanction quelque part pour lui là? C'est bizarre, non, le fait qu'il soit pas aligné alors qu'on le disait, Fekir est pas à 100% encore.
Il montre pas satisfaction sur
quand
le match.
Quand je dis sanction, c'est pas au niveau
sportif,
du comportement.
Sportif, mais oui.
Si t'as suivi un peu les matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais, t'as vu que Martin Terrier, il a été énorme dans les matchs amicaux.
Il a joué tout le temps.
Il a marqué quasiment à chaque fois. Il a joué souvent. Donc c'est une juste récompense que, à un moment donné, t'es l'attaquant prioritaire, le petit jeune est derrière, mais il a été bon. Et là, ce soir, il a du temps de jeu, il est décisif, il marque et il est à l'origine du deuxième but.
De toute manière, je pense que si on doit faire des paires pour dire tel joueur est en concurrence avec tel joueur, je pense que maintenant, cette année, Mariano, il est en concurrence avec Memphis. Parce que les deux ensemble, ils se marchent sur les pieds tout le temps, c'est insupportable. Et Memphis est quand même en très bonne forme, il faut le dire. Il a fait encore
Fekir
un très bon match.
La pièce maîtresse, c'est lui qui va apporter du brillant et qui va donner une cohérence au jeu offensif.
Évidemment.
Alexandre, merci de nous avoir appelé. À bientôt, Alexandre.
Merci à vous. Bonne soirée, les gars.
Bonne soirée à toi, Alexandre. Tiens, je vous rappelle le calendrier également de l'OL pour les prochains matchs. Le prochain match, ce sera à domicile face à Nice. Ensuite, les Lyonnais iront à Caen. Ils vont recevoir Marseille. Ensuite, ce sera le week-end du 22 septembre. Ils iront à Dijon. Ensuite, ils recevront Nantes et ils iront au Paris Saint-Germain. Mais là, c'est bien plus loin puisque ce sera début octobre. On a Pierre-Louis, autre supporter de l'OL, qui est en direct avec nous dans l'after. Salut, Pierre-Louis.
Ouais, salut les gars. Ouais,
salut Pierre-Louis.
Bon, Pierre-Louis, tu l'as trouvé comment ton OL ce soir?
Déjà, juste un petit mot, j'avoue, je suis super content de passer dans l'émission parce que je vous écoute depuis des années et ça fait plaisir.
Bienvenue, mon gars.
Ça fait plaisir aussi, Pierre-Louis.
Merci. Alors, Terrier, moi, j'ai bien aimé, je vous entendais un peu en parler. J'ai trouvé qu'il était assez collectif, donc ce qui change un peu avec les attaquants qu'on a. Bonne performance, son but c'est sympa. En plus, il disait ce matin dans une interview à OLTV qu'il était fan de Thierry Henry et son but m'a beaucoup fait penser au but d'Henry qu'on voyait souvent dans ce style-là. Ouais. Sinon, après, j'ai beaucoup aimé Diop, vous en parliez il y a pas longtemps. C'est vrai que peut-être qu'il pourrait se lâcher un peu plus, mais on l'a très peu vu l'an dernier. Et franchement, je pense que c'est un mec qui peut entrer dans la rotation. Techniquement, il est bon. Il a une certaine vision du jeu et il a fait un bon match.
Bon, on a
après...
bien aimé aussi.
Comment ?
On a bien aimé aussi.
C'est un bon joueur, ça se voit que c'est un bon joueur.
Ouais, et après, j'entendais un des intervenants précédents, enfin un auditeur précédent qui parlait de la défense. Moi, c'est ça qui me fait flipper parce que, enfin, je suis désolé, mais Morel, enfin, un jour, faudra s'y arrêter. Il est inexistant. Enfin, moi, j'étais à Reims le week-end dernier dans le parquage, là. Mais enfin, il est complètement dépassé. Et
c'est clair.
J'espère que de Nayer, ça vaut. Enfin, moi, j'essaye d'y croire. Enfin, j'espère. Mais si lui, il est pas au niveau, on est mort.
Quoi. Déjà, en fait, quand tu parles de la défense, moi, je veux pas insister là-dessus, mais c'est pas juste la charnière, c'est le trio Morel, Marcelo, Touzard qui sont inquiétants. Après, faut quand même se dire une chose, c'est que Jérémy Morel, pourquoi il joue en défense centrale? C'est Marcelo Bielsa qui le met en défense centrale à Marseille, dans une défense à 3, ou dans une défense à 5, dans le 3-3-1-3 marseillais, dans 3-3-1-3 du Bielsa.
Ouais,
et c'est à la rigueur, il a fait des quelques matchs très intéressants dans une défense à 3. Mais je pense pas, j'ai pas compris pourquoi Lyon continue de l'aligner en défense centrale dans une défense à deux. Il a pas le profil.
D'accord.
Alors, il est gentil, hein, Jérémy Morel, il est sympa, il a une kangou, il a des chiens, et c'est,
non,
mais c'est vrai, il est sympa, il a beaucoup de chiens, moi j'aime les chiens aussi, donc c'est cool.
T'aimes pas les kangous?
Non, pas trop, c'est quand même un peu dégueulasse. Dire. Il a une kangou customisée pour ses chiens, c'est un mec, sympa.
T'as une kangou customisée pour tes chiens?
Non, j'ai pas de kangou.
Est-ce que t'as des chiens?
J'ai pas de chien, mais j'ai des
enfants. T'as pas de chien, t'as pas de kangou, mec. Mais t'as pas, c'est quoi ça? Le mec, il était à forer ta vie, mec.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est gentil, mais qu'il a pas le niveau, et je comprends pas pourquoi Lyon continue, enfin, Genesio continue d'aligner en défenseur central, si ce n'est que le manque de ressources.
Après, ils sont pas aidés non plus, on est en train de tirer à boulet rouge un petit peu, parce que ça a été criant ce soir. On a des latéraux aussi qui sont plus des latéraux à vocation offensive.
J'allais venir quand on parle des défenseurs, il y a ça aussi.
Les courses, les premières contre-attaques, strasbourgeoises, elle part sur les côtés, sur des courses qui sont pas suivies, sur des attaquants qui sont lancés
et
pas suivis par les latéraux.
Raphaël et Mendy.
Exactement. Donc ça doit travailler à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a sur le match de ce soir et le match de Reims, il y a une certaine inquiétude quand même.
Après, moi, je suis désolé de parler encore du budget, mais enfin pour un club comme Lyon qui a 280 millions de budget, si je dis pas de conneries, ce qui est comparable à l'Atlético Madrid, on l'a déjà répété souvent, comment tu peux avoir Morel en défense centrale? Enfin, genre normalement. On doit avoir des mecs confirmés.
Et surtout, t'as quand même très bien vendu cet été, hein.
Mais exactement.
Maolida, Jebels, Jacabi. T'as quand même montré du pognon un peu, hein.
Même le mec en face, Mitrovic, là, de Strasbourg, moi, je le préfère à Morel.
Il a fait un très bon match,
ouais.
Pierre-Louis, merci de nous avoir appelés.
Bah, merci à
vous. Merci Pierre-Louis. Le gâteau est pas fini.
Ouais, non, c'est vrai. Et continuez votre émission, hein. Moi j'écouterai pendant encore très longtemps.
On est au moins là jusqu'à minuit. Tout va bien, hein, bien sûr. Bonne nuit à toi, Pierre-Louis. Merci de nous avoir appelés. À bientôt.
Ciao. Salut les gars, merci.
Ciao, Pierre-Louis. Tiens, je vous donne le calendrier de Strasbourg également. Je vous donne une petite stat également. Figurez-vous que Strasbourg n'a pas marqué à Lyon depuis 598 minutes. C'est-à-dire que ça fait plus de 6 matchs. Le dernier buteur strasbourgeois à Lyon, c'était une défaite 2-1. C'était le 1er décembre 2002. Vous trouverez jamais le nom du mec.
Non. C'était trop toi.
Il a un nom très breton. Il a un homonyme qui est très connu en politique. Qui est très à droite. Ce n'est plus de ce joueur. Il a joué à Lorient.
Le Pen.
Bravo. Tu as joué en même temps que Jérôme Thomas. Allez, Ulrich Le Pen. Dernier
breton,
buteur du Racing à Lyon.
Ça remonte alors.
1er décembre 2002 quand même. Hein. Ça remonte. Hein,
Il est très à droite, n'exagère pas.
Je rigole. N'est-ce pas, oui. Le calendrier du Racing Club de Strasbourg. Le prochain match, ce sera à domicile à la Mélo face à Nantes. Ensuite, ils iront à Montpellier, recevront Amiens et ils iront à Marseille, au stade au Vélodrome. Le calendrier, c'est plutôt abordable hein, jusqu'à Marseille, hein, sur le papier du moins. C'est des adversaires directs, les gars. On va pas venir à l'inverse.
Non, c'est vrai. Nantes qui peine à débuter la bonne carburation en début de saison. Montpellier, c'est toujours un déplacement qui est un peu chiant. Non, c'est abordable, c'est vrai.
C'est pas mal, hein.
Ouais, t'as raison.
On va se faire les vals, tiens, de ce Lyon-Strasbourg. On vous rappelle donc les buteurs. Terrier et Traoré pour l'OL. Victoire 2-0 pour l'Olympique Lyonnais dans cette première affiche de la troisième journée de Ligue 1. Messieurs, qui est votre cador, le cador de ce match, de ce Lyon Strasbourg, l'homme de ce match?
C'est évident.
Bah, il aurait été facile de mettre, bien évidemment, on aurait pu mettre Memphis, on peut mettre Traoré. Non. Moi, je mettrais Terrier
pour
sa première.
Buteur, voilà, passeur décisif.
Il est sur les deux buts. Et sur le deuxième but, il fait tout.
Moi, je mettrais Terrier.
Ah, ouais, mais Terrier aussi. Sur, notamment pour ce qu'il fait sur le second but. C'est quand même, il remonte le ballon, il est au poste,
il a la récupération du ballon,
c'est lui qui récupère le ballon au corner, il fait une course de 50 mètres, il fait une super passe à Memphis. Non,
on va se faire cette évaluation avec un supporter lyonnais, avec Grégory qui est en direct avec nous. Salut Greg.
Bonsoir.
Salut. Je t'appelle Greg, hein. On se connaît, quoi. Ouais, je suis marrant.
Il est bon public, lui, hein.
Ouais, il est sympa, parce que là, j'ai senti le bide arriver.
Tu peux l'appeler Nico.
Ouais, tu peux m'appeler Nico si tu veux, Greg. Bon, Greg, c'est qui ton homme du match, toi, ce soir? Ah, ouais, ah, il raccroche à la gueule.
Il a pas aimé la gueule.
C'est énorme. Bref. Bon. Votre pied carré ce soir, messieurs.
Ah, Morel, pour les 2-3 fois, il nous a fait peur en défense.
Ils prennent pas de but quand même. Vous êtes sévère avec Morel.
Ah, non, mais il a des choses qu'il fait, il a pas le droit, quoi. Non, non. Morel.
Ouais, pied carré, c'est dur, mais bon, c'est vrai qu'il.
Et il est gentil, il a une kangou et des chiens.
Non. C'est un peu dur quand même. C'est un peu dur.
Tu veux pas qui alors?
Tu sais que tu vas être obligé, Ludo.
Faut que t'en aies un, Ludo.
Je sais que t'es peut-être un bon.
Toi aussi, t'as
sûrement nommé pied carré quelques de ces catégories. Vas-y, lâche-toi.
Non, pied carré, c'est dur quand même.
Allez, fais pas la mijaurée, ma petite chérie.
J'en bois pas d'autres, mais c'est des glissades, des positionnements.
C'est encore pire la manière dont tu le fais. Non, mais tu sais que c'est encore pire ce que tu fais, quoi. Parce que c'est plein de condescendance.
Je vais t'essayer réfléchir, franchement. On va retrouver Grégory, qui est toujours là. T'es là, Grégory, ou pas?
Yes, me revoilà.
Vas-y, raccroche-moi la gueule, surtout, mec. Hein. Bah oui, merci.
T'as bien raison.
Bon, Grégory, t'allais dire ton homme du match, toi, ce soir.
Bah, écoutez, j'ai été très, très agréablement surpris par Diop. C'est un gars que je connaissais à peine, j'ai vu jouer un peu en match dans les matchs amicaux. Et j'ai trouvé qu'il avait quitté Ndombele et qu'il avait pas mal servi de piston au milieu de terrain. Alors, soit il fait pas partie de l'escouade offensive lyonnaise, mais j'ai trouvé qu'il était très, très intéressant.
Okay, donc pour toi c'est Diop, nous c'était Terrier, on va se dire Terrier. Toi t'as un pied carré ce soir ou pas?
Bien aimé aussi, j'avoue.
T'as un pied carré ce soir, Greg, ou pas?
J'ai été un petit peu déçu par Depay.
Il est fou, lui!
T'es dur, là!
T'es un malade, toi!
Ouais, il a fait 2-3 trucs d'enfer, mais là on parle de pied carré. Face au but, il y a 2-3 fois, j'ai trouvé qu'il avait quand même fait des mauvais choix et qu'il avait trop voulu porter la balle. Mais je trouve que c'est la même chose pour Traoré, hein, donc c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
C'est dur
quand même. Là.
Et toi, c'est qui le tien, alors?
Oui, Morel, si on
va dans ce sens-là. T'aimes pas les kangous, t'aimes pas les chiens.
Les gars, j'étais avec eux encore il y a pas si longtemps.
C'est bon,
fais pas la mijaurée.
Caraille ou pas? Vous coupez le cordon, me dit Jérôme, il a raison. Coupe un peu. Votre taulier ce soir. Vas-y, Grégory.
J'ai été agréablement surpris par Traoré. Parce qu'il m'avait vraiment déçu au match précédent, et puis même durant la campagne des matchs amicaux, je trouvais qu'il combinait jamais avec le latéral, mais je trouvais qu'il distribuait beaucoup plus les ballons, et j'ai trouvé qu'il a été vraiment important dans la victoire.
Traoré pour Grégory, toi tu mettrais qui en taulier?
Puisque l'auditeur dit Traoré, moi je vais mettre Depay.
Moi je suis comme toi.
Non seulement il a été disponible, il s'est montré disponible, il a joué pour les autres. Je l'ai trouvé très intéressant aussi sur les coups de pied arrêtés. On en parle pas assez souvent, mais c'est vrai que
ses corners
sont toujours bien tirés et dans des matchs.
Ah, il est très très fin sur coups de pied arrêtés.
Il est très bon. À chaque fois qu'il en a marqué un, il y a pas si longtemps, il me semble que c'était le premier match contre Amiens. Là, tout ce qui est corner, c'est dangereux.
Non, et même dans le jeu, hein.
Dans des matchs où c'est parfois un peu serré, t'es bien content d'avoir un joueur de cette qualité-là.
Moi, je dirais Memphis ou Mitrovic, que j'ai trouvé très intéressant. Non, Memphis ou Mitrovic.
Quoi, en Antolier?
Ouais.
Je trouvais quand même assez rassurant. Mitrovic, non, ça doit pas.
Si, tu veux, ouais.
Alors, faut bien citer des joueurs strasbourgeois aussi.
Il faut en donner un, de toute façon. Faut choisir.
Allez, Mitrovic.
Eh ben, ce sera Depay. Voilà, ça c'est fait. Votre Casper ce soir. Voilà le mec, le fantôme du match. Grégory.
Ah, c'est facile, là.
Bah, j'aurais tendance plutôt à dire Morel, quand même, hein.
D'accord.
Coup,
mais il peut pas faire de catégorie, hein. Si on le met en pied carré, on peut pas le mettre en Casper.
Mon pote. Pas choisi en pied carré. Casper, sinon, il y avait le 18 Strasbourgeois, là. Je me souviens plus de son nom, j'ai pas trouvé exceptionnel, qu'ils ont remplacé, d'ailleurs, à la 65e ou 70e.
Gonçalves.
Ah ouais, mais je crois qu'il a des origines portugaises, on peut pas.
C'est donc ça.
Je suis désolé, c'est interdit par le règlement. C'était Sissoko d'ailleurs.
Sissoko.
Ouais.
Ok.
Vous avez un Casper, vous les mecs?
Ouais. Lucas Touzard.
Ok.
Ah, dur.
Lucas Touzard, je trouve.
Dis le mec, il nous dit que Depay a fait un sale match, quoi.
Pas assez d'impact à la récupération.
Je déconne, Greg.
C'est censé être le. Il est au carrefour du jeu lyonnais. Il est censé faire apporter de l'équilibre entre la défense et l'attaque, dans les phases de transition. Et j'ai trouvé qu'il a failli dans son rôle, comme c'est très souvent le cas, malheureusement.
Était-il indigent?
Il était indigent. Non, quand même pas. Non, n'exagérons pas. N'exagérons pas.
Ludo,
on va essayer d'équilibrer un peu, on va dire, un joueur serbe bonjour, moi plutôt Gonçalves.
Arrêtez de l'appeler. Je te lance un appel, toi. Arrête de l'appeler Gonçalves.
Il a dit pas de portugais surtout.
Gonçalves.
Voilà. Non, je l'ai trouvé pas à son avantage sur le côté droit, donc, ouais, je mettrai lui.
Visiblement, ce sera lui, donc, hein. Ça y est, t'es arrivé, Grégory?
Pardon? Ouais, oui.
Ouais, j'ai entendu la porte claquer et tout ça,
c'est pour
ça.
Okay. Je me suis arrêté. Non, même pas, je me suis arrêté.
Bon. Grégory, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Grégory.
Salut, Grégory. Merci.
Bonne soirée, tu fais attention en rentrant.
Pas ni problème, bonne soirée.
T'es loin de chez toi, là?
Pardon?
T'as encore de la route, là?
Ouais, j'ai 5 bandes, là. Je suis déjà dans Lyon intramuros.
Ça laisse le temps au voisin de quitter l'Italie, maintenant.
Fais attention au volant de la Kangoo. Hein.
Je vais faire attention.
Bon, salut Grégory, bonne soirée à toi.
Bonne soirée, salut.
Salut.
Ciao Grégory. Tiens, récapitulatif de cette évaluation qui nous a été préparée par Jérôme Thomas. L'homme de ce match est donc Martin Terrier. Ouais, ça apparaît sur RMC Sport News.
C'est bien.
Le pied carré et Jérémy Morel. Attends, on a investi,
c'est fini.
Ouais, mon gars. Jérémy Morel, le pied carré, le taulier. Même fils de paille et Anthony Gonçalves, c'est donc le Casper, je ne cautionne pas de cette rencontre. Dans quelques instants, messieurs, on ira en Allemagne puisque c'est la reprise de la Bundesliga aujourd'hui. Bayern Hoffenheim, en voilà une affiche qu'elle est belle. Victoire du Bayern ce soir, on sera avec David Lortolari. On prendra des nouvelles des champions du monde, les derniers qui ont repris d'ailleurs, notamment Tolisso. Et puis également Pavard qui va reprendre ce week-end avec son club de Stuttgart. On va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut encore à Stuttgart, ce champion du monde Benjamin Pavard? Et la réponse dans quelques instants avec Ludo Bragnac, Jonathan Macard et David Bortolari qui sera avec nous.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovic Obraniak et de Jonathan Macardy, vous êtes très nombreux ce soir sur le hashtag RMC Live au 32-16, bien évidemment. On a analysé le match entre Lyon et Strasbourg. Première affiche de la troisième journée de Ligue 1 et victoire 2-0 de l'OL ce soir. On a oublié de vous le montrer, mais sachez que ça fait un gros buzz sur les réseaux sociaux. Figurez-vous que l'Olympique Lyonnais a révélé son maillot third, vous savez, le troisième.
Alors,
c'est ça. Alors j'ai pas caché les sponsors, je vais me faire engueuler, je le sais. Alors c'est un maillot orange. L'OL explique que c'est un hommage rendu à l'histoire du club et notamment aux premières épopées européennes de l'OL dans les années 60. Et c'est vrai qu'ils avaient un maillot orange avec un short bleu à l'époque. D'ailleurs à l'époque la marque c'était le Coq Sportif, je peux le dire, puisque celui-là c'est un Adidas et c'est pas un Nike. Comme ça je vais pas me faire engueuler. Et du coup, alors, les supporters. Alors, on n'a pas du tout apprécié d'ailleurs la couleur de ce maillot qui est orange, hein, je vous le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio. Orange DDE, estiment certains. Bah, c'est peut-être moche, mais il y a il y a une référence historique.
Oui, comme le maillot orange de l'OM, là, en référence au bomber retourné des Winners. Non, mais c'est pas beau. Et surtout, quand tu joues en Coupe d'Europe, t'as envie que ton club joue avec ses couleurs. Tu joues avec le maillot blanc, avec la bande rouge et bleue. C'est pas beau, c'est juste du marketing. Faut arrêter de nous prendre pour des pigeons, quoi. Mais... c'est du marketing pur et simple pour faire un maillot dégueulasse et pour justifier sa production. Et pour, on sait que ce genre de maillot un peu funky se font très très bien auprès des, 14, 18 ans. Donc ils vont faire un peu de blé avec ça, mais il est pas beau.
Faut que je cache les marques.
Alors. La référence historique n'excuse pas tout.
T'aimes pas?
C'est un homme de goût, Ludo.
Je suis pas fan, raison.
Pourquoi?
Dis-le, il est dégueulasse.
Il est pas dégueulasse en plus, franchement. Tu veux que je te dise, l'OL, ils ont fait pire, y compris en Ligue des Champions il y a quelques années.
L'OL?
Ah, ils en avaient un, je me souviens. Tu sais, il était bleu nuit avec du vert, un vert turquoise.
Oui,
il était très rouge dessus. Ça, c'était dégueulasse.
De l'OL, tu parles?
Ouais, un vert turquoise, ouais.
Ouais.
Un vert bleu rouge, tu sais. Un truc vraiment dégueulasse. C'est quoi le plus dégueulasse avec lequel t'as joué, toi, Ludo? Le Grenat était classe.
Non, le Grenat, il est parfait.
Le maillot de Lille, il est pas mal aussi.
Il était beau aussi.
Au Serre, c'était sûr.
À Bordeaux, t'as pas eu des maillots un peu funky, là?
T'as pas eu du Kipsta, toi?
À l'époque, à Lille, on était en Hermès.
Oui. T'as pas eu du Kipsta, toi?
Pas eu le Kipsta encore.
Mais à Bordeaux, t'as pas eu les maillots dégueulasses, là, tu sais, les maillots fer dégueulasses, un peu bizarres.
Ah, les roses, là?
Les roses et tout, ouais.
Le Cap Ferret, tout ça. Ouais, non, je l'ai pas eu, celui-là.
Ah, parce que celui-là, il était vraiment
pas beau. T'as jamais joué avec un maillot dégueulasse, toi, au final?
Pas vraiment, non.
Il a refusé de jouer avec un maillot qui était pas beau,
ce blanc et rouge, là, il était magnifique, la Pologne aussi.
Non, non, j'ai pas le souvenir.
Maillot extérieur.
Non, même pas.
Maillot offert.
Non, je te dis, à part les maillots, à Auxerre, la première année, on était, bah, encore, hein.
Ah, t'as une dent contre Auxerre.
On revient sur Ernest.
C'est vrai qu'ils sont suivis,
Ah, non, c'est vrai qu'ils sont, ouais, bon.
Attends, mais... et Rizé Sport, ça donne quoi?
Ouais, c'est pas si mal, Rizé
Sport. Arrête, t'es fou, quoi.
Non, je peux pas dire du
mal. Rayé vert et bleu? Non, mais c'est dégueulasse.
Du blé, c'est bon.
Vert et bleu, ça se marie pas du tout.
Il a pris du blé là-bas. On sent qu'il a pris du blé là-bas, il peut pas trop mal parler.
Non, avoue, c'était pas beau.
Non, mais je dirais pas du mal, de mal.
Ne mords pas la main qui te nourrit.
Mon maquet vieille face est ouvert, c'est simple.
Ouais, mais.
C'est la couleur de la paix, l'espoir.
Classique, mais beau.
Bon, bon, ok. Donc il n'y aura pas eu de maillot
lyonnais. Au moins le maillot lyonnais là, il évite le côté un peu, tu sais, sac plastique que certains maillots orange de l'OM avaient. C'est quand même un peu moins pire que certains maillots orange qu'on a vu.
En parlant de dégueulasse, il est avec nous pour la reprise de la Bundesliga, David Lortolari. Eh oui, drôle de dame de l'after, vous le savez. Salut David.
C'est quoi cet accueil, celui-là? Allô,
Brendan. Ah oui, c'est dégueulasse. Il a eu des longues vacances, David. Hein. Salut David.
Salut messieurs.
Bonsoir David.
Dis-moi, Ludo Bragnac a joué un peu au Werder Bremen, non? Et c'était pas les maillots orange à l'époque, les maillots à l'extérieur?
Ah, non?
Si, c'était les maillots orange, ouais, mais on les utilisait pas beaucoup.
C'est vrai que t'as joué au Werder, toi, putain, j'avais oublié. Ouais, vert aussi.
C'était beau, les maillots, le maillot de Miss Lou Werder, il est pas mal.
Ouais, mais l'extérieur, le orange, là, dont parle David, c'était quelque chose aussi. Hein. Alors David, reprise de la boulie ce soir de la Bundesliga,
et oui,
avec une belle affiche. Hein. Bayern Offenheim, avec Offenheim qui avait terminé 3e la saison dernière. Victoire 3-1 du Bayern Munich face à cette équipe d'Offenheim. Tiens, ils ont été comment, nos Français, ce soir? On pense notamment à Tolisso, parce que c'est le retour du champion du monde, notamment.
Alors ça a démarré fort, hein, 4 buts et un score qui n'est pas forcément le reflet exact du match. Tolisso était en tribune et il a mangé des pop-corn. Donc ça, c'est une info peut-être ce soir. En ce qui le concerne, non, la principale info hors terrain, si je puis dire, hors résultat ce soir, c'est Kingsley Coman, très infortuné, victime d'un tacle de Nico Schulz, le défenseur d'Offenheim, un peu malheureux. Et Coman est sorti en boîte en bas, soutenu même par des gens du staff, et on craint une blessure grave de Kingsley Coman.
T'as loupé la blague de Nico Kovac. David.
Non, j'ai pas écouté parce que
il a dit qu'il connaissait le papa de Nico Schulz.
Ah, papa Schulz.
Voilà, tu l'as, c'est bien.
Il fallait le donner à le pauvre, voilà.
Ancien joueur du Hertha Berlin. Non, mais c'est malheureux ce qui s'est passé ce soir pour Kingsley Coman, parce que il était bien, il était en jambes, il était déjà décisif, et puis à la fin de la première période, victime de ce tacle, il a été obligé de sortir et
on craint une blessure
importante. Blessure à la cheville en plus.
T'as des infos?
Donc rechute possible de ce qu'il a connu il y a quelques mois, et ça pourrait être un problème.
Mais attends,
pour lui,
il a déjà manqué une vingtaine de matchs, quoi, de la saison dernière quand même.
Voilà, exactement. C'est pour ça que ce soir, il y a un mouvement de solidarité. J'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux aussi, parce que tout le monde craint que ce soit une blessure grave. On en saura sans doute plus ce week-end. Pour l'instant, ce ne sont que des craintes. On n'a pas d'informations précises, mais la cheville a l'air touchée, et c'est quand même le point noir de la soirée. En dehors de ça, tu parlais des Français, Nico. Ribéry, ce soir, a été décisif. Il a même provoqué un pénalty discutable, voire très discutable, mais qui a permis au Bayern de prendre l'avantage en fin de match et de finalement s'imposer. On a retrouvé les vieilles recettes. On a retrouvé un Bayern fort, dominateur, bousculé aussi par cette équipe de Offenheim très agressive. Ça, on le sait, ça n'a pas changé depuis l'an dernier. Les buteurs, Thomas Müller pour commencer, ça va lui faire beaucoup de bien. Robben et Lewandowski, donc ce sont des joueurs que vous connaissez. Voilà, Ribéry a été très important sur le côté gauche, et Robben a remplacé Kingsley Coman côté droit. Donc on a repris les vieilles recettes côté Bayern pour démarrer la Bundesliga par une victoire.
Moi, David, ça m'intéresse de savoir mon ancien collègue Robert Lewandowski, comment ça s'est passé? Ça sera biboche un peu avec le public du Bayern un peu ou pas?
Ouais, ça a l'air. Il a été décisif déjà lors de la Supercoupe avec les 3 buts qu'il a inscrits contre l'Eintracht Francfort. C'était le premier match officiel pour le Bayern. 3 buts de Lewandowski, ça lui avait déjà donné beaucoup, beaucoup de baume au cœur. Ça avait aidé sans doute aussi à ce que ça s'apaise un peu avec le Bayern et avec ses supporters. Et aujourd'hui, il marque à nouveau un but. Enfin, en fait, il a tiré le premier pénalty, Robben rentre trop vite.
Ouais. Sur le premier pénalty qu'il rate, Robben suit, il est rentré trop vite dans la surface, c'est ça?
Voilà, arbitrage vidéo demandé par Monsieur Dankert, l'arbitre. On a fait retirer le pénalty à juste titre, parce qu'effectivement, Robben était entré dans la surface trop tôt. Le premier pénalty avait été manqué par Lewandowski, le deuxième a été réussi. Et donc, pour lui, c'est une soirée paraît forcément positif parce que chaque but qu'il va marquer, on se doute bien que ça va lui permettre de s'affirmer à nouveau auprès du Bayern et auprès des supporters.
J'ai apprécié le courage aussi dont il a fait preuve de reprendre le ballon à nouveau pour retirer. Ça montre une certaine confiance en lui quand même.
Mais comment tu les sens, David, le Bayern cette année, notamment par rapport à la Ligue des Champions?
Faut se méfier des évidences, parce que c'est vrai qu'ils sont 6 fois champions d'affilée. N'empêche que l'an dernier ils étaient pas en tête quand Jupp Heynckes a pris l'équipe. Donc là il y a un nouvel entraîneur, il faut pas dire que ça va forcément être une évidence. En Allemagne il y a cette petite musique assez répétitive qui consiste à dire, de la part de nos confrères éditorialistes et tout, que le Bayern il va encore manquer un petit quelque chose cette saison pour aller au bout en Ligue des Champions.
T'as pas l'impression que le mercato est
très bien
un peu
final? Il n'y a plus que 4 équipes et en finale 2, hein, mathématiquement. Mais l'idée, c'est ça, c'est que peut-être on s'est pas assez renforcé, on n'a peut-être pas cassé la tirelire suffisamment pour attirer le joueur plus qui permettrait de regagner enfin cette Ligue des Champions. C'est le refrain qu'on entend en ce moment en Allemagne. On verra ça forcément au printemps prochain, on peut pas le savoir pour l'instant.
Tiens, on va accueillir Saïd qui est supporter du Bayern et qui nous a appelé au 32-16. Salut Saïd.
Salut les gars, ça va?
Salut Saïd.
Bienvenue Saïd.
Ben bonsoir à tous déjà, hein, pour commencer. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Bon, écoute, c'est quoi, ça paraît loin déjà.
Ça paraît loin déjà.
Il y en a qui n'ont pas pris du tout, hein, monsieur. Hein.
Ben ouais, moi j'en reviens juste
riche, en Auvergne.
On était là tout l'été, hein, on est turbiné, mon pote.
Mais je vous écoute, moi, toujours. Même quand je pars en vacances.
Ça va. Alors Saïd, t'en penses quoi du Bayern de cette saison? Parce que alors c'est vrai qu'on a tendance à croire que le championnat est d'ores et déjà plié après à peine commencé. La priorité, c'est peut-être la Champions. Est-ce que tu penses, parce que c'est la question qu'on se posait là avec David, que le Bayern s'est suffisamment renforcé pour prétendre à la Champions League justement?
Alors moi, je vous dis clairement, le Bayern sera au-dessus en championnat, comme d'habitude. Le Dortmund et Schalke qui vont essayer de tenir la dragée haute un peu, mais sur la durée, ça tiendra pas. Ensuite, par rapport à l'UEFA Champions League, non, ils n'iront pas la chercher, parce qu'il y a quand même des gros calibres. Le Barcelone, le Paris Saint-Germain, quand même, qui a une équipe. Real de Madrid, qui sera là. Donc je pense pour la Champions League, ça sera compliqué. Par contre, pour le championnat, c'est clair qu'ils sont au-dessus. Il n'y a pas photo, j'ai encore regardé le match tout à l'heure. Franchement, ils ont une équipe, même s'ils ont des anciens comme Ribéry, Lewandowski, Ariel Robben, c'est quand même des mecs qui ont l'expérience. Ils ont encore.
Tu as un Rames Rodriguez qui rentre en cours de match en deuxième période.
Par exemple. Donc c'est quand même au-dessus, quoi. Donc je les vois pas se faire titiller en championnat. Par contre, en Champions League, ça va être compliqué. Je pense pas qu'ils iront la chercher.
Est-ce que David, le problème, et d'ailleurs je te pose aussi la question à toi Saïd, mais est-ce que le problème du Bayern, c'est pas justement que le championnat, il est trop facilement plié? Est-ce qu'il manque pas d'adversité chaque week-end dans le championnat?
Alors ce qui est vrai, c'est que Dortmund, qui est peut-être le candidat, le concurrent le plus sérieux de la dernière décennie, Dortmund est encore en reconstruction cette année. Le directeur sportif Zorc l'a bien répété, il a dit il va nous falloir 2 ans, 7. Ce mercato-là, ils ont commencé à bosser, et encore le prochain, l'été 2019, pour vraiment retrouver une compétitivité. Donc là-dessus, on peut le croire. À Dortmund, on est prudent, et je pense pas que Dortmund soit, on puisse dire aujourd'hui que ce soit un favori pour gagner le championnat. Et puis Schalke et Hoffenheim et éventuellement quelques autres, c'est pareil, c'est forcément un peu en dessous. Après, dire que le championnat s'affaiblit, il faut avoir une analyse un peu plus fine, parce que par exemple, tu as des joueurs comme Schürrle qui a été clairement mauvais l'année dernière en Bundesliga, qui est parti vers l'Angleterre. Est-ce que c'est pas une bonne idée de laisser partir des joueurs moyens contre de l'argent? Voilà, on peut avoir cette discussion là aussi. Schürrle était pas forcément un joueur compétitif, il est parti à l'étranger, c'est pas forcément un mauvais signe pour la Bundesliga. Des exemples comme ça, il y en a d'autres. Vous voyez, donc l'analyse, il faut qu'elle soit aussi pas seulement faite sur OK, il y a pas de stars qui sont arrivées en Bundesliga, OK, les joueurs partent parce qu'il y a plus d'argent ailleurs. Ça rend pas forcément le championnat faible pour autant.
David, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'arrivée du nouvel entraîneur et de sa patte un petit peu? Est-ce qu'on peut voir tout de suite l'impact qu'il a? Parce que c'est un peu, on prend les mêmes, on recommence, et puis la plus-value, c'est l'arrivée du nouveau coach.
Ouais, je pense que c'est lui qui peut apporter une fraîcheur aussi dans le jeu, une façon d'improviser, de jouer différemment. On a vu ce soir un affrontement tactique entre deux entraîneurs qui aiment bien aussi, contrairement à ce qu'on a connu récemment au Bayern, qui aiment bien aussi jouer sur la contre-attaque, jouer sur le Umschaltspiel, comme on dit en allemand. C'est-à-dire le ballon tout de suite récupéré, on se projette immédiatement par de longs ballons vers l'avant. Ça paraît un peu simpliste ce que je vous dis là, mais ça va faire du bien au Bayern, parce que il y a les joueurs suffisamment techniques dans cette équipe pour pouvoir avoir différentes façons de jouer. Et surtout, et ça on en convient en Allemagne, ce que Kovac va apporter, c'est, alors là aussi c'est un poncif du football, mais c'est la niaque à chaque match et la volonté de gagner à chaque match. C'est-à-dire que ça, c'est une culture au Bayern, mais quand chacun se regarde un peu le nombril et que chacun pense un peu à soi, ça fonctionne pas. Et avec Kovac, ça va pas être possible. Ce soir, il n'y avait pas Hummels titulaire. Ce soir, il n'y avait pas Robben titulaire. Et Kovac a confirmé après le match qu'elle allait largement faire tourner, sinon à chaque rencontre, du moins très régulièrement. Donc même les stars au Bayern vont être obligés de se remettre en question régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être forcément un plus aussi pour l'esprit combatif collectif de l'équipe.
On remercie Saïd, un supporter du Bayern qui nous a appelé au 32-16. On vous rappelle la reprise de la Bundesliga ce soir et le succès du Bayern 3-1 face à Hoffenheim, la sortie sur blessure de Kingsley Coman. Dimanche, il y a Mayence Stuttgart et c'est également le retour d'un autre champion du monde, alors qui a marqué le plus beau but d'ailleurs du mondial, à savoir Benjamin Pavard. David, vu de France, on est étonné de voir Pavard encore à Stuttgart finalement. Ouais. Comment tu l'expliques toi ça?
Alors ça, on peut l'expliquer. Il y a un vrai décryptage à faire sur ce joueur effectivement. Déjà, il faut comprendre, je vais être rapide, mais il faut expliquer ça en quelques secondes. Il faut comprendre l'importance du directeur sportif de Stuttgart, qui est Michael Reschke, qui est un ancien du Bayern et un ancien de Leverkusen. Il avait fait venir à Leverkusen des joueurs comme Leno, comme Kisling, comme Arturo Vidal. C'est un homme extrêmement important. Et si Michael Reschke décide quelque chose à Stuttgart, il est écouté et on respecte sa décision. Ça, c'est une première chose très importante dans le contexte. Deuxième chose, effectivement, il y a eu 5-6 top clubs qui ont fait des offres à Stuttgart cet été.
Dont le Bayern.
Oui, alors le Bayern, on s'est mis d'accord.
David, juste une question, une parenthèse.
Pour l'an prochain, pour 35
jouer
millions d'euros.
Pour jouer à droite ou pour jouer dans l'axe? Parce qu'il y a aussi ce problème de polyvalence. Il fait une Coupe du Monde en tant qu'arrière droit.
Tu veux dire que ça peut lui servir finalement d'être
il est dans l'axe
en Allemagne, ils le connaissent dans l'axe surtout.
Oui, alors exactement, Jonathan. C'est vrai, à Stuttgart, il va être conservé pour jouer justement dans l'axe. On a laissé partir Marcin Kaminski, le Polonais, vers Düsseldorf justement pour... Alors, pas pour laisser la place à Pavard, mais ça oblige aussi à conserver ce joueur pour jouer en défense centrale, précisément.
Et on va le préciser, il est meilleur dans l'axe.
Oui, en tout cas, c'est là qu'il est légitime à Stuttgart, et c'est là qu'il est attendu pour la saison.
Mais David, pour finir, Reschke, il dit quoi alors sur l'avenir de Pavard?
Ah ben Reschke, il dit que, enfin, il a insisté, il a fait en sorte que Pavard reste cette saison à Stuttgart, alors qu'on savait très bien qu'il allait être très difficile de le conserver. Il y a eu des offres des discussions pour un départ pour plus de 35 millions d'euros, puisque c'est la clause libératoire, les 35 millions pour 2019. Et à partir du moment où Reschke a dit on le conserve encore pour une saison, voilà, le joueur est obligé de se plier aussi à ça.
Rendez-vous dans un an.
Aussi avec le Bayern, avec
voilà, rendez-vous dans moins d'un an. Merci David, en tout cas.
Salut messieurs.
À bientôt David. Qu'on retrouvera lundi dans les drôles de dames, dans l'after du lundi bien entendu. David Lortolari. Dans quelques instants, les infos du jour, il sera question de Clinton Engie, d'Henri Bédimo, Hugo Loris également. De la gare des Gaules du côté du Paris Saint-Germain et quelques infos transferts également avec Ludo Bragnac et avec Jonathan McCarty. On vous dit à tout de suite pour la suite de l'After.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Ludovic Obraniak et de Jonathan McCarty. C'est le dernier quart d'heure de cet after. Tiens, j'en profite pour vous dire que à partir de demain, il y a un nouveau rendez-vous pour les lives et les débriefs sportifs tous les samedis et les dimanches à 19h. Ce sera présenté par l'excellent, par le beau, le joli Jean-Christophe Drouet avec la Dream Team RMC. C'est le RMC Sport Show. Alors, il y aura notamment Roland Courbis, Fenel Charbonnier, Laure Lepailleur pour le foot, Yannick Nyanga, Philippe Saint-André, Denis Charvet pour le rugby, Sarah Pitkowski, Julien Bento pour le tennis, Stephen Brun pour le basket, Marie Zévan GP pour l'athlétisme. Voilà, c'est le samedi de 19h à 22h et le dimanche de 19h à 21h. Show que vous pourrez suivre également sur la télévision, sur RMC Sport News aussi, en simultané. Voilà, c'est donc à partir de demain avec ce très bon JC Drouet. Il y avait le début de la troisième journée de Ligue 1 ce soir. Victoire 2-0 de Lyon face à Strasbourg. Déclat de Bruno Genesio en conférence de presse il y a quelques instants. Je suis satisfait car il y a une réaction après la défaite à Reims. Nous prenons 3 points et dans le jeu, il y a eu des choses intéressantes, même si en première période, nous avons été à mon goût trop vite déséquilibrés. Nous devons encore faire mieux, dit encore Bruno Genesio. Mais j'ai beaucoup aimé les intentions de jeu vers l'avant et les appels de balles et les analyses de Ludovic Obraniak dans l'after. Voilà ce qu'a déclaré Bruno Genesio.
Merci Bruno.
Tu sais qu'il y a des très très bons tweets concernant.
C'est vrai?
Non vraiment. Il y en a qui ont retrouvé des photos de toi quand t'avais les cheveux rasés avec ce maillot grenat du FC Metz bien entendu et le graouli floqué sur cette poitrine. Voilà. Quelques infos Ligue 1 maintenant. Qu'est-ce qu'il y a?
Vas-y.
Ça vient. Dimanche 21h. Marseille-Rennes. Il en peut déjà plus, Jonathan Macardy. Rudy Garcia était en conf de presse cet après-midi. Il s'est exprimé sur le cas Clinton Engie. Alors l'attaquant qui est revenu après son départ manqué au Sporting du Portugal. Et vous allez l'écouter, l'entraîneur de l'OM est heureux de retrouver Clinton Engie.
Moi, je suis très content qu'il soit de retour. Ça me fait une solution en plus. Voilà. S'il a envie de marquer le but vainqueur contre Rennes ce week-end, qu'il se gêne pas. C'est un joueur très très attachant et un joueur qui a des qualités, celle qu'aura certainement Nemanja Radonjić quand il va arriver. Je pense que ça s'est pas fait avec le Sporting parce qu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Voilà. Ils avaient deux joueurs. Ils en ont pris un autre. Et puis, quand Clinton est arrivé là-bas, ils lui ont dit que ça se ferait pas pour des raisons qui leur sont propres à eux, mais là je pense que la raison c'est qu'ils ont pris quelqu'un d'autre à sa place, point quoi.
Voilà, et le joueur, le quelqu'un d'autre en l'occurrence, c'est Abdoulaye Diaby, hein, l'international malien qui était du côté de Bruges. Toi tu connais bien, tu manies bien le Rudy Garcia?
Je connais très bien le Rudy Garcia, je le manie très bien.
Et donc pour toi, est-ce qu'il est vraiment heureux de retrouver Clinton Engie?
Bah, ils ont voulu le céder, mais il est heureux de le retrouver. Donc ça, c'est.
Il y a un peu d'ironie, tu veux dire, dans ses propos.
Non, il y a pas d'ironie, com, mais quoi. Forcément, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il va pas dire, non, il revient. Qu'est-ce qu'on va en faire?
Jamais, on peut toujours le refourguer à quelqu'un d'autre. Bon, encore, si le mercato n'est pas fini.
C'est pas fini, reste encore une semaine.
Si t'as accepté de le laisser partir, c'est comme Balotelli, on en voulait pas tant que ça. Bon, voilà, et il faut savoir interpréter les choses.
Il faut pas dévaluer ton produit. Ça peut toujours être vendu, Clinton Engie. Ouais, le joueur qui en avance sur Mbappé dans certaines catégories du jeu, d'ailleurs.
Moi, je vous pose la question.
D'autant que moi, je l'ai trouvé plutôt. Il a rendu des services, notamment en Coupe d'Europe. Il a mis des buts importants. Moi, je trouve que c'est un joueur qui t'offre une palette.
C'est 9 buts l'année dernière, hein, quand même.
Clairement, c'est 9 buts parce qu'il y a plein de buts. C'est des buts où il a plus qu'à pousser la balle au fond. Mais il a un potentiel qui est certain. Mais qu'est-ce qu'il est frustrant d'avoir joué, le mec. Enfin, t'as l'impression qu'il progresse pas et qu'il régresse même. Donc, est-ce que l'Olympique de Marseille mérite
mieux? Il est en dessous pour toi de Mitroglou et de Germain.
Ah
non,
bah alors,
troisième.
Déjà que le niveau de Valère Germain, par exemple, n'est pas très élevé. Oui, Engie, pour moi,
alors,
il
attends,
est loin
moi, je te pose
derrière,
la question
quoi.
Différemment. Toi, tu le vois comme un axial, Clinton Engie, parce qu'il joue pas mal couloir aussi.
Ah, il le met souvent dans l'axe, il l'utilise.
Ouais, mais il joue aussi couloir.
À deux attaquants, oui. C'est un joueur qui t'apporte notamment en cours de jeu. Il a apporté
sprint.
Pas mal de fraîcheur, oui, de la course vers l'avant. Mais l'OM en a manqué pas mal l'année dernière. Et notamment, je trouve que sur les matchs de Coupe d'Europe, il a débloqué quelques situations et qui les a amenés à
pouvoir...
Je sais plus, c'était
franchement en poule, ouais. Il met un but ou deux en poule, c'est tout. Mais
non,
après,
même dans un match décisif où il marque à Marseille le deuxième
oui,
but
contre Leipzig.
Mais il a souvent fait des bonnes rentrées, donc bon.
Pas Leipzig contre les.
Je te trouve un poil sévère Salzbourg. Avec.
Tu penses
avec
que si Marseille, tu penses que si Marseille venait à le garder, ce serait un renfort là aussi, parce que finalement il était parti, Clinton Engie.
Ah mais non. Faut être sérieux. On va pas dire ça pour rien.
Clinton Engie devait le refourguer, le récupère. Bon bah, est-ce que c'est pas un renfort?
Non, franchement, non, c'est pas un renfort. Ce qui aurait été un renfort, ça aurait été de le vendre encore plus à une somme à deux chiffres. Ça aurait été miraculeux. C'est un joueur qui a pas le niveau pour jouer à l'OM. C'est un joueur qui a pas le niveau pour jouer dans un club du top 3 du championnat. Faut s'en séparer, c'est tout. Il a plus sa place. Maintenant, si tu passes un cap, si tu veux continuer à jouer la 4-5e place et à faire pourquoi pas 4-5e place, oui, peut-être à la rigueur. Mais si tu veux envisager plus haut, faut s'en séparer. Et puis il y a quand même alors oui, c'est vrai, le match où il met le deuxième but, c'est contre Salzbourg, au match aller. Mais il a quand même beaucoup trop de déchets, et on se rappelle encore de son extérieur du pied magnifique en finale contre l'Atlético, je pense que tout le monde s'en rappellera. C'est un joueur qui progresse pas, c'est ça qui est inquiétant.
C'est vrai que celle-là, elle était énorme.
C'est ça qui est inquiétant, parce que Rudy Garcia, il a fait progresser quand même pas mal de ces joueurs-là, qu'il a à l'OM. Engie, il stagne, et il devient de plus en plus mauvais. C'est ça qui est inquiétant. Et puis surtout que Radonjić vient d'arriver et qu'il y a un petit peu ce profil de vitesse, de prendre de la profondeur.
Et ça complique.
Je sais pas.
Et ça complique d'autant plus l'arrivée du grand attaquant annoncé. Tu te retrouves avec
Rudy Garcia a dit c'est pas une priorité finalement.
Ouais, c'est pas une priorité.
Moi je le crois. Par contre, pour le coup, quand tu dis ça, j'ai tendance à le croire.
Donc toi, t'es en train de m'expliquer que Rudy Garcia, il est content avec Valère Germain et Kostas Mitroglou.
Je pense que c'est pas sa priorité. Je pense que sa priorité, c'est de prendre un autre milieu de terrain.
Il y en a un qui, en revanche, lui, a déjà quitté l'Olympique de Marseille, c'est Henri Bédimo, alors qui a été licencié pour faute grave par l'OM, et l'international camerounais qui s'est expliqué aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Alors l'OM qui reproche à son ex-joueur de s'être associé à une académie au Cameroun, qui est en partenariat avec Montpellier, ancien club de Bédimo, alors qu'il était sous contrat avec les Olympiens. Bédimo s'est expliqué dans l'équipe. Je suis persuadé que le club a cherché tous les moyens pour résilier mon contrat sans que cela ne lui coûte rien. Il explique encore, cela remonte à plusieurs années en arrière. Je suis devenu parrain de cette académie en 2007 et j'ai commencé à négocier un partenariat avec Montpellier en 2012. Quand j'étais joueur là-bas, je n'ai signé à l'OM qu'en l'été 2016. On me reproche donc de mener un projet dans mon pays natal pour aider les jeunes Camerounais à avoir une vie meilleure à travers l'école et le sport. Le motif est fallacieux et abusif, déclare Henri Bédimo. C'est vrai que globalement, cette affaire, elle s'est quand même pas très bien terminée.
C'est pas très beau, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas très classe le comportement qu'ils ont. Bédimo, de cette manière, il jouait plus. Il était en tribune tout le temps, il était même plus convoqué dans le groupe. C'est un joueur dont il souhaitait se séparer. C'est vrai que c'est pas très très élégant.
Ouais, Ludo.
Bon, la cassure, elle date pas d'aujourd'hui. Donc bon, ils ont trouvé un prétexte pour pouvoir passer la main et peut-être pas payer d'indemnité. J'en
mais
sais
c'est
rien.
Pas
donc non, c'est pas beau. Mais bon, c'est le monde du foot qui est comme ça. Donc
soyons idéalistes. Disons ensemble que c'est moche.
Pas de surprise.
Voire dégueulasse.
Voilà. Osons les grands mots.
Demain à 17h, la suite de cette troisième journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain-Angers. C'est Areola qui sera titulaire, ainsi que face à Nîmes. Révélation et explication de Thomas Tuchel aujourd'hui en conférence de presse.
Il va arriver. Nous sommes d'avis que c'est très important pour Alphonse pour jouer parce qu'il a joué en mai. Et maintenant, il doit adapter, il doit jouer. Pour nous, il doit jouer avec l'équipe. Chichi a fait trois matchs exceptionnels, magnifiques, avec son performance et son personnalité. Et je n'aime pas de Je n'aime pas lui sortir. Mais à l'autre côté, c'est maintenant très important dans cette phase de pour nous, c'est une phase de préparation de aussi give Alphonse the chance,
donner à Alphonse la chance de jouer, de s'adapter à l'équipe.
Et pour ça, nous avons pris cette décision pour les deux prochains matchs.
Alors, on rappelle que Buffon sera suspendu les premiers matchs de Ligue des Champions. Donc, il veut donner un peu de rythme à Alphonse Areola, justement, avant les échéances de la Champions, quoi. Ouais. Mais je te voyais faire la moue, toi, pendant qu'il parlait.
Non, les choses sont plutôt claires. On sait que Gigi Buffon sera suspendu les trois premiers matchs de Champions League. Il y a le premier match qui va arriver dans pas longtemps. Il est nécessaire qu'Alphonse Areola fasse quand même quelques matchs pour se mettre dans le bain et pour pouvoir être performant. Après, on en discutait avec Simonet en off. Buffon l'année dernière à la Juve, c'est 25 matchs et Chesney une vingtaine. Sauf que Chesney, les matchs qu'il fait, c'est les matchs quand on parlait sans vouloir dévaloriser Angers et Nîmes. Le taulier, il laisse au gamin faire ses armes parce qu'il a besoin de jouer. Et Gigi reprendra la main quand il faudra jouer les matchs importants et notamment la sortie de poule et la Ligue des Champions.
Mais l'info c'est ça. C'est que Areola est bien le numéro 2. Alors ça c'est une info parce qu'on le savait pas.
C'est vrai qu'il a jamais été très clair.
Donc Areola est le numéro 2. Moi je pense toujours que Trapp est meilleur que lui, mais Areola est 2 et Trapp est donc 3.
Et petite réaction sur les réseaux sociaux du Nîmes Olympique après cette annonce de Thomas Tuchel. Ils sont assez marrants. Il est assez marrant le community manager. Et ça vaut pas Laurent Fala non plus. Du Nîmes Olympique. Faut pas avoir peur. Gigi Buffon ont-ils répondu sur Twitter. Voilà, c'est rigolo, c'est marrant. C'est signé le Nîmes Olympique. Tiens, notez également autre petite information puisqu'on parle des gardiens du Paris Saint-Germain. Kevin Trapp a refusé 2 propositions de presse cet été.
Mais Kevin Trapp, il est dans l'obligation de rester parce que t'as Buffon qui est suspendu pour les matchs de poule, donc Areola sera numéro 1. Tu mets qui derrière?
Ils ont 2-3 bons jeunes qui peuvent faire le taf. Mais je suis d'accord avec toi.
Je pense qu'il y a un arrangement avec Trapp, ils le laisseront partir pendant le mercato d'hiver.
Pourquoi Trapp, il a refusé 2 offres de prêt? Il faut être encore plus clair, c'est qu'il a pas envie de quitter Paris. Il a un très bon salaire.
Peut-être aussi.
Sa femme veut rester à Paris. Il est très bien à Paris. Il profite bien de tout ce que Paris a à offrir. Je pense qu'il va en rester cette saison. Et je pense même que c'est un peu... Enfin, moi, je le comprends. Je critique pas du tout parce que je serai à sa place. Je choisirais pareil. Mais il a pas envie de partir. Mais il s'en fout. Je pense que c'est jouer. C'est pas grave s'il joue pas. Il profite de la vie. Et puis voilà. C'est, faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Il est bien à Paris. Quitte à pas jouer, préfère pas jouer à Paris que de jouer dans un bled, je sais pas, en Allemagne. Et ça peut se comprendre.
Pourquoi un bled? Pourquoi en Allemagne?
Parce qu'il est allemand. Et je sais pas. Parce qu'en Allemagne, la vie est parfois un peu austère.
Tu penses à quoi comme ville? Genre Offenheim, un truc paumé quoi. Offenheim, c'est la campagne, non?
C'est la campagne, ouais.
C'est un bled, hein, Offenheim, ouais.
Je veux dire, il y a des très belles villes en Allemagne, en Hambourg, c'est super, etc. Mais il y a quand même des voilà.
Tiens, petite info mercato également, ça se passe du côté d'Amiens. Sachez que Saman Rhodos, l'international iranien qui était annoncé du côté de Rennes, il s'est engagé jusqu'en 2023 avec Amiens, lui qui était en Suède à Östersunds, qui débarque pour 4 millions d'euros hors bonus. Alors Rennes était sur le coup, il y a une attente d'homologation également puisque le club de Huesca en Espagne bien affirme que le joueur s'était engagé vis-à-vis de lui, qu'il avait déjà signé un contrat et qu'ils avaient même fait signer une clause libératoire à 40 millions d'euros. Donc ouais, ils expliquent aux autres, celui qui le veut, faut payer la clause, c'est 40 millions.
C'est quel poste?
Il est attaquant. Il a des très belles stats d'ailleurs avec Östersunds.
Attaquant axial
en Suède, ouais. Ouais, attaquant, ouais, effectivement. Tiens, sachez également petite info que la DNCG a validé l'inscription de Loïc Rémy du côté du LOSC, qui techniquement peut donc jouer avec son nouvel attaquant, le LOSC, dès dimanche 15h contre Guingamp, et toujours en attente d'homologation les contrats de Jérémy Pied et de Raphaël Lian également du côté du LOSC. Alors info pas foot, voilà, hors terrain, on parle beaucoup de ça en Angleterre. Hugo Lloris qui a été arrêté en état d'ivresse. Alors c'est venu d'un communiqué de la police métropolitaine de Londres, alors qui a expliqué qu'un homme de 31 ans avait été arrêté, et que cet homme est Hugo Lloris dans la nuit du vendredi au samedi. Il a été libéré sous caution avant d'être convoqué par la cour de Westminster. Ce sera le mardi 11 septembre. Lloris qui s'est excusé ensuite dans un communiqué. Je tiens à m'excuser de tout cœur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporters. L'alcool au volant est totalement inacceptable. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner. Voilà pour la réaction de Hugo Lloris. Et petite info, alors on parlait de Nîmes tout à l'heure avec ce tweet sympa. Vous savez que Nîmes, c'est 2 victoires en 2 journées, dont cette victoire extraordinaire face à l'Olympique de Marseille la semaine dernière. Et ce que fait Bernard Blacquer, l'entraîneur, c'est absolument extraordinaire, surtout quand on voit les conditions dans lesquelles il bosse. Regardez. En fait, il est en conf de presse.
Il y a tout qui se casse la gueule.
Et voilà, il y a le panneau qui tourne.
Le panneau avec les pubs pour les auditeurs à la radio, ouais.
Voilà, c'était l'image
un peu
insolite.
Ce qui fait toute la beauté et l'attraction du Nîmes Olympique.
Voilà. Merci beaucoup, Ludo Bragnac.
Mais merci à vous.
Bravo, c'était la première. T'as été bon, toi, aujourd'hui?
J'ai essayé.
C'est vrai?
On verra, hein.
Ouais, t'as été
bon. On va laisser les auditeurs et les téléspectateurs.
Hashtag RMC Live, hein, voilà. Est-ce qu'il est le boulet? Est-ce qu'il est l'homme de l'after? Est-ce qu'il est Pierre Carré ou Casper?
Il est bon.
Merci Jonathan Macardy.
Merci Nicolas Villas.
Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont aidés à préparer cet after. Nous, on se retrouve demain à partir de 22h, bien entendu. Merci à toutes et à tous. Bisous. Bonne soirée. Ciao.
RMC, le football show.